Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup.
N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 7ème dimension. La voix est la même, le générique est le même, et comme vous pouvez le voir, la musique est bien plus vénère. Et nous inaugurons ensemble aujourd'hui une nouvelle rubrique dédiée au cinéma dématérialisé. C'est pour ça que cette rubrique s'intitulera Welcome to the Streaming, en hommage au Welcome to the 90s de notre numéro physique, de notre numéro papier de 7ème dimension. Donc, bien entendu, qui dit nouvelle rubrique dit qu'elle va s'intercaler forcément avec la programmation de la Vérif. Donc je pense que là, au final, le compte est bon. Donc on a des épisodes longs du podcast qui vont être dédiés à des sujets thématiques, des sagas, des filmographies, des réalisateurs. On a du coup la Vérif qui, elle, va être dédiée aux ressorties, aux nouvelles éditions Blu-ray sur support physique. Et maintenant, nous avons Welcome to the Streaming qui va être dédiée, bien entendu, aux films dématérialisés, parce qu'il y a quand même des choses qui sont cool et ça serait dommage de se priver aussi de cette actualité-là. L'idée par là, c'est pas de devenir le nouveau YouTuber de la semaine et de vous parler des nouveaux épisodes de séries qui sortent sur ces plateformes-là. Donc je ne vous parlerai pas du transpersonnage parce que déjà, premièrement, on s'en fout, et deuxièmement, parce que c'est bien de la merde. Et au final, je viens de me rendre compte que j'en ai quand même un peu parlé. Non, l'idée, comme je le répète en fin d'épisode à chaque fois, nous, notre créneau, bordel, c'est le cinéma de genre, et du cinéma de genre, il y en a aussi en dématérialisé. Donc là, techniquement, je vais me frotter les mains parce que je vais m'attaquer à un sujet, spécifique, qui est le cinéma de genre français. Et c'est vrai que le 19 juin dernier est sorti sur Netflix un film qui s'intitule « Balles perdues » et qui a été écrit et réalisé par Guillaume Pierret. Et ce « Balles perdues », eh bien, j'ai envie de vous dire, il a motivé même la création de cette rubrique, parce que « Balles perdues », honnêtement, ouais, ça enfonce complètement le cinéma français qui a été fait jusqu'à présent. Ouais, c'est de l'honnête série B, c'est fait avec les tripes, il y a une envie de cinéma qui transpire dans chaque plan. Donc je me suis dit, ça serait dommage de ne pas parler aussi de ces initiatives qui sont réalisées sur ces plateformes-là et de se couper de cette actualité-là, parce que bordel de merde, oui ça bouge et oui ça défonce tout. Donc on va profiter de cet épisode dans un premier temps pour recentrer en fait le contenu Netflix Originals. Vous avez vu, mon anglais est fantastique. Donc pour recentrer ces créations originales Netflix, donc c'est vrai que des plateformes comme Amazon Prime, donc Prime Video, ou Netflix ne sont pas, on va dire, connues que pour leurs séries officielles, mais elles sont amenées à devenir de vrais studios de cinéma et à produire eux-mêmes des longs-métrages. Donc on va parler un petit peu aussi de cette partie-là en intro de ce podcast. Donc, alors, ces créations-là sortent sous forme dématérialisée. Elles ont un processus de production qui est traditionnel, c'est-à-dire avec de la 1 réal, une écriture scénaristique, des producteurs, des acteurs. Donc en fait, finalement, ça se construit de la même manière qu'une production cinématographique. La seule différence, c'est l'exploitation qui est faite derrière, c'est-à-dire que ça reste prisonnier de la plateforme qui l'a produite. Voilà. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez aimé Balles perdues, eh bien Balles perdues, si vous voulez le voir et le revoir, il faudra le regarder sur Netflix. Alors ça, ses avantages et ses inconvénients. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez revoir ce film-là en mode playlist et regarder les passages que vous avez envie, les commenter, les partager. Voilà, on peut faire ça. Mais on va perdre le côté sympathique aussi du support physique. C'est-à-dire que déjà, d'une, le film ne vous appartient pas, en aucune manière. C'est-à-dire vous arrêtez vos abonnements, au revoir le film. Ça, c'est un petit peu une problématique. Vous vous dites, bon, ben, j'arrête mon abonnement, au pire, j'achète en Blu-ray. Ça n'existe pas en Blu-ray, ce n'est pas distribué. Donc, si vous voulez ce film-là, vous êtes obligé de vous abonner à la plateforme, et ça, ça pose un réel putain de problème à l'heure actuelle. Et ce qu'amène le support physique de manière traditionnelle sur une œuvre cinématographique, c'est que, hormis le fait de le posséder et de pouvoir le regarder à loisir et de ne pas être dépendant d'un abonnement, c'est que ça vient souvent avec des making-of, des interviews, etc. Et là, en fait, sur une plateforme de streaming, honnêtement, eh ben, y a que dalle. Voilà. Donc c'est un film noyé parmi tant d'autres, et ça, c'est aussi un petit peu dommage. Donc voilà, ça c'est pour contextualiser un petit peu ces œuvres originales Netflix. Alors, j'ai intitulé cette rubrique « Welcome to the streaming », le direct to VOD. Voilà. Donc c'est pour faire écho aussi au direct-to-DVD ou direct-to-vidéo qu'il y avait dans les années 80-90, parce que clairement, quand Netflix ou Prime Video produisent des longs-métrages, il y a quand même ce côté un peu DTV. Qu'est-ce que ça veut dire DTV ? On va recentrer un peu le propos. DTV, c'était à l'origine un film qui ne passait pas par la case cinéma et dont l'ambition était bien moindre, et le budget également. Donc c'était produit spécifiquement pour la vidéo. C'est pour ça qu'on a pu avoir aussi des suites de films qui ont marché au cinéma, mais qui ont été exploités en vidéo pour limiter un petit peu les risques. Donc on a eu pas mal de prods dans les années 90, et j'étais très curieux, en fait, au lancement de Netflix, de voir quelle serait la qualité, de ces productions originales Netflix. Et autant vous le dire, ouais, excusez-moi l'expression, ouais, je me suis bien fait baiser la gueule les trois quarts du temps, parce que les trois quarts du temps, ce que produit Netflix, c'est du pur DTV, avec un concept, on va dire, qui permet de rentabiliser la mise, et il n'y a pas réellement de prise de risque. Donc, sur, on va dire, 90% de la prod Netflix, on est dans un cas de figure DTV. Bien entendu, je pense que Reed Hastings a des volontés, on va dire, un peu plus nobles, c'est-à-dire qu'il transforme au fur et à mesure Netflix en vrai major cinéma, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on peut voir le dernier Scorsese, The Irishman, du coup sur Netflix. Donc il y a une vraie volonté d'y mettre maintenant les moyens, les acteurs, etc., pour produire du vrai putain de cinéma. Donc on va prendre quelques instants pour regarder un petit peu les films, on va dire, Netflix notables. Moi je me suis fait une petite liste sur le papier. Donc alors, c'est pas forcément dans l'ordre de sortie. Moi, ce qui me vient, le premier film qui me vient en tête, c'est Triple Frontière. Voilà. Pour moi, Triple Frontière, ça a la gueule du coup d'un film cinéma. Donc il y a le casting, il y a la réal, il y a l'ambition, donc il y a vraiment, l'argent se voit à l'écran et on a vraiment l'impression de regarder un film cinéma dans son salon. Surtout que bon, bah, pour le cas de Triple Frontière, quand tu ouvres ton film avec un morceau culte de Metallica et que tu refermes ton film avec un autre morceau culte de Metallica, le film ne peut qu'être bien en fait. Au final. Donc Triple Frontière, très très bien. L'adaptation du manga Death Note par Adam Wingard, c'est pas mal. J'avais parlé dans un précédent podcast aussi des tentatives réalisées du coup pour les adaptations de Stephen King, notamment Jesse. Ça c'est vraiment très très bien. On a aussi le nouveau Gareth Evans, le dernier film de Gareth Evans, réalisateur de The Raid, qui est Le Bon Apôtre. Voilà, Le Bon Apôtre, c'est quand même un espèce de film de bourrin, voilà, à base de torture moyenâgeuse. Donc c'est quand même bien, faut le noter. Donc The Irishman, ça c'est pour moi ce que je retiens en termes de réussite incontestable et notable. Même si je n'aime pas The Irishman, voilà, moi je l'aime pas ce film-là, mais je lui reconnais toutes les qualités intrinsèques qui sont liées à Martin Scorsese. En termes de films d'action, on sent aussi une volonté de Netflix de se positionner sur ce créneau-là, d'avoir son équipe d'Expendables à lui. Donc on a déjà le Six Underground de Michael Bay. Alors, Six Underground, j'ai envie de vous dire, c'est une expérience. Enfin, c'est une expérience, hein. C'est-à-dire que c'est ultra cut, c'est ultra bourrin, c'est une idée par plan. Ça vous fait saigner des rétines. C'est du Michael Bay, j'ai presque envie de dire, c'est du Uber Michael Bay, voilà, en mode puissance 10. Donc on pose son cerveau, on se laisse guider, c'est quand même valable, c'est tourné en décor naturel. Donc Six Underground, c'est largement, comme je le dis souvent, fréquentable. Dernièrement, on a eu sur cette plateforme le très rigolo involontairement Tyler Rake, voilà. Donc écrit par un des frères Russo et réalisé par, on va dire, un ami de la famille entre guillemets. Donc Tyler Rake, histoire de merde, voilà, postulat très années 80, mais alors genre les mauvaises histoires des années 80, et une volonté en fait de faire du plan séquence d'action avec du combat rapproché à main nue jusqu'à plus soif, jusqu'à l'écœurement même. Donc Tyler Rake, juste pour la petite info, je l'ai regardé avec mon ado, on s'est marré, ouais, parce que involontairement on s'est marré. Oui, je sais, c'est pas bien, hein, de se marrer quand on jette des petits enfants du Bangladesh par-dessus un immeuble, mais c'est tellement fou et over the top que on ne peut que rigoler. Donc on a Tyler Rake. Côté déception de ces programmes originaux Netflix, l'annihilation de Alex Garland. Voilà, je vous le dis. Non, j'ai pas aimé ça, j'ai regardé ça d'un œil distrait, espèce de film de SF pseudo-métaphysique. Donc il y a Nathalie Portman, c'est cool, le casting était sympa, il y a des jolis effets de couleur, hein, entre guillemets, hein. Presque on s'attendait à voir débarquer des licornes, hein, tout le spectre colorimétrique de l'arc-en-ciel était présent dans ce film-là. Non, Annihilation, je me suis fait chier. Je me suis fait aussi, comme je le disais tout à l'heure, baiser aussi par des rachats en fait, hein, sous la licence Netflix, comme le troisième Cloverfield, The Cloverfield Paradox, qui est un bon gros Z des familles rigolards, donc c'est nul quoi, voilà, et avec un espèce de plan foireux enfin pour essayer de te raccrocher les wagons avec une espèce de franchise qui n'a ni queue ni tête. Donc et au niveau des navets, je me suis noté, vous entendez le bruit du papier qui se retourne, le Bright de David Ayer, donc Bright avec Will Smith, c'est nul quoi, voilà, donc c'est nul. Bon, alors, toute proportion gardée, ça a la gueule d'un mauvais film VHS que j'aurais pu aller louer à l'époque, voilà, donc ça vaut le prix de son abonnement, hein, c'est-à-dire 9 balles, hein, à l'époque Netflix, hein, quand Bright est sorti, donc ça vaut 9 balles et ça vaut pas plus, et Will Smith est en mode je paye mon loyer, donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour recentrer le débat. Alors, ce qui est intéressant, du coup, maintenant on va parler du positif avec Netflix, moi, pourquoi je le regarde avec un intérêt, c'est que ça permet pour certains pays d'abolir les frontières et d'arrêter cette espèce d'embargo sur la création de films de genre. Alors j'explique un petit peu. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a quand même une culture du do-it-yourself où on peut te donner la chance, voilà. Donc ça, c'est une espèce de culture anglo-saxonne où il est facile de faire du genre. Alors que dans des pays européens, avec l'histoire qu'on a, c'est super compliqué. On est prisonnier d'une tradition cinématographique et faire du film de genre en France, c'est ultra compliqué. Déjà, faire un film en France, voilà, je vous donne un exemple, hein. Vous avez des idées, vous faites des études et vous voulez réaliser un film. Mais le parcours de croix, le chemin de croix, mais laissez tomber, quoi. C'est un parcours de la foi, quoi. C'est-à-dire que, généralement, ceux qui arrivent, parce que ça, c'est une réalité, à faire quelque chose en France, c'est soit le cousin ou le fils d'eux ou un membre de la famille, voilà. Il y a quand même un minimum de piston, un minimum de talent, pas toujours, et puis dans des créneaux bien spécifiques, c'est-à-dire comédie humoristique, film de costume, voilà, des genres bien codifiés, quoi. Voilà, on pourrait même faire une comparaison, du coup, avec la variété française en musique, voilà, qui est carrément un genre à part entière. Donc voilà, c'est super compliqué. Et je me suis dit, l'apparition de Netflix, parce que je l'ai vu, je l'ai senti, hein, ça avait le goût, l'odeur de quelque chose qui allait devenir une major, hein, hollywoodienne. Elle abolit les frontières dans le sens où elle s'installe dans chacun des pays et elle va produire du contenu dans ce pays-là. Donc ça veut dire qu'elle va permettre à certains réalisateurs de pouvoir s'exprimer et de pouvoir enfin, voilà, casser en fait ces idées reçues qui peuvent exister dans certains pays. Alors, bizarrement, là où ça émerge le mieux, c'est en Espagne. C'est fou, hein ? Donc, alors l'Espagne a son passif hein, par rapport au western spaghetti, parce que les westerns italiens étaient tournés en Espagne. Donc, il y a quand même une base, mais pas aussi forte qu'en France, bordel. Donc, et l'Espagne sort son épingle du jeu. Il n'y a qu'à regarder la plateforme, même si ça ne sait pas comment ça ne sait pas finir, hein, la plateforme. Hein, ça ne sait pas se terminer en lui-même. Mais globalement, c'est une offre qui est valable. C'est une belle proposition. Et même au niveau des séries qui sont produites par Netflix, La Casa de Papel, ah, c'est pas rien. C'est connu mondialement et c'est produit à la fois en Espagne et au Portugal. Donc ouais, l'Espagne arrive à tirer son épingle du jeu. Voilà. Mais pourquoi pas la France, bordel ? Voilà, c'est la question. Pourquoi la France n'arrive pas à profiter de cette occasion-là ? Voilà, ça c'est vraiment le grand questionnement. Donc pourquoi ? Donc on va essayer, avant d'embrayer sur le film Balles perdues, de répondre à ce question du pourquoi. Voilà, faire un petit peu d'historique, hein, parce que dernièrement, je m'en suis rendu compte quand j'ai partagé un petit peu ce futur épisode sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, on sent qu'il y a une attente, et on sent en même temps que c'est un peu compliqué de produire du genre en France, parce qu'on est comparé à d'autres films, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà, il n'y a pas lieu d'être, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc on va expliquer un petit peu le contexte spécifique de la France. Donc, et je vais me permettre une opinion qui n'engage que moi. Donc c'est-à-dire que, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, on va dire ça, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du cinéma, on a inventé le cinéma. Ouais, c'est un fait établi. On a inventé le cinéma. Mais putain de bordel de merde, et qu'est-ce qu'on en a fait derrière ? Ben je sais pas, on n'a pas fait du cinéma. Voilà. Alors là, je vois certains, surtout je pense les plus âgés vont se mettre à gueuler, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, cette espèce de fou là de 7ème dimension, cette espèce de podcasteur à la noix. Non, les gars, non, je suis désolé. On a inventé la caméra, et ce sont les autres qui ont fait les films. Ah ouais, vous pouvez prendre l'histoire du cinéma dans le sens que vous voulez, nous, on est juste en train de se masturber depuis, allez, 50 ans sur la nouvelle vague. Alors je vais vous le dire, hein, mais la nouvelle vague, mais on s'en branle de cette espèce de révolution esthétique bourgeoise qui n'intéresse que le Festival de Cannes, qui n'intéresse que Télérama, qui n'intéresse que les Cahiers du cinéma. Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Voilà, ça j'ai envie de vous le dire. Voilà, ça fait partie de l'histoire, mais va falloir se réveiller, hein, les gars, parce que en France, généralement, on aime bien se la raconter en mode « Oui, nous ce qui importe, c'est l'histoire, on fait un film d'auteur. » Ouais, très bien. Fais des films d'auteur. Mais excuse-moi de te dire que moi, quand j'ai envie d'aller dans une salle de cinéma, parce qu'il y a un peu aussi le côté divertissement, je pose mon cerveau, est-ce que j'ai le droit, en France, de voir un film d'action, ou de voir un film d'horreur, ou de voir un film de SF ? Est-ce que je peux avoir le droit, s'il vous plaît, messieurs et mesdames de l'intelligentsia française, je vais arriver à le prononcer, est-ce que j'ai le droit à ça ? Ben non, j'ai pas le droit. Parce que nous, en France, on fait des films d'auteur. Mais j'en ai rien à foutre de payer ma séance de cinéma pour aller voir la misère que je peux voir, par exemple, dans le cercle familial de mon oncle, par exemple. J'ai pas envie d'aller voir un deux pièces cuisine. J'en ai rien à branler. Voilà, j'en ai rien à branler. Comme j'en ai rien à branler de voir, par exemple, des petits enfants sucer des cailloux au bord d'une usine. J'en ai rien à foutre. C'est bien que ça existe, mais le cinéma, ce n'est pas que ça. Voilà. Et donc, nous, on se réfugie derrière ce truc de « on fait des films d'auteur, on invente le cinéma, et après on tape sur Hollywood, mais par contre on va voir tous les films, tous les Fast and Furious et toutes les saloperies Marvel quand ça sort. » Donc il va falloir m'expliquer un truc. Donc moi, je le répète, voilà, du haut de mes 40 ans, depuis un certain nombre d'années, on est capable de faire ces choses-là. Par contre, on sera capable de les faire et de les pérenniser quand on arrêtera de taper sur nos auteurs qui essayent de s'imposer, parce que c'est ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, voilà, on se plaint de ne pas pouvoir le faire, voilà, de ne pas le faire, et quand on le fait, on tape sur ces gens-là qui le font, et on compare ce qui n'est pas comparable. Donc maintenant, j'aimerais qu'on arrête un petit peu et qu'on donne la chance et qu'on soutienne, oui, nos auteurs français en leur donnant les moyens. C'est quand même un comble qu'un film comme Balles perdues soit produit en partie, parce qu'il y a quand même des fonds français et européens, soit produit en partie, du coup, par un pays étranger, qui est les États-Unis, avec une plateforme qui n'est pas française, qui est américaine. C'est quand même un comble, ça. Voilà. La meilleure série horrifique qui a été disponible sur une des plateformes en SVOD dernièrement, c'était Marianne. Et c'est français. Voilà, et ça a été produit par des étrangers, réalisé en France. Donc, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous faire un discours nationaliste, parce que je suis loin d'être nationaliste, je suis en train de vous dire qu'il y a quand même un problème. Voilà, il y en a marre de filer de la thune, voilà, pour voir les mêmes comédies de merde signées Danny Boone ou autre. Il y en a marre, j'en ai marre de voir ces merdes-là. Et vous étonnez pas que les jeunes préfèrent, ou les gens, voilà, les amateurs de cinéma de genre, préfèrent lâcher leur bifton ailleurs. Ne vous étonnez pas. Donc maintenant, il serait temps de réaliser cette chose-là. Donc Bien entendu, je vois déjà au fond de la salle, voilà, toujours les mêmes personnes qui disent « Ouais, mais il y a Luc Besson !» Mais Luc Besson, putain, Luc Besson, il a participé à enterrer le cinéma de genre français, d'accord ? Donc pour, allez, j'aime pas Besson, mais je vais lui accorder des réussites, voilà. Pour un Grand Bleu, pour un Léon, putain, mais combien de prods de merde il a fait ? Les taxis, on en parle, si c'est pas un crachat au cinéma de genre en France, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc tous les Yamakasi, toutes ces saloperies là, ça a pas arrangé le truc. On est connu maintenant du coup à l'étranger, on était connu pour la baguette de pain et le béret, on est connu pour la baguette de pain, le béret, dans une voiture et ça s'appelle taxi. Voilà, super le cinéma de genre français. Donc non, Besson il a pas contribué à ça. Et si réellement il était fier de ces films là, il aurait mis son nom à la réal derrière. Il a préféré appeler quelqu'un d'autre pour le faire. Donc le postulat est fait. Bien entendu que en France, on a essayé. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Pareil, hein, je me suis fait une petite liste et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces réalisateurs qui avaient essayé, c'était à la même période. Donc au final, c'est début des années 2000. Le premier qui a essayé de faire quelque chose, alors il l'a fait à l'étranger, hein, voilà, avec des fonds étrangers, c'était Crying Freeman, c'était Christophe Gans, c'était en 95. Donc à partir de 95, et c'était produit par Samuel Adida, parce que voilà, paix à son âme, voilà, il nous a quitté dernièrement. Samuel Adida aussi a participé à faire émerger un certain cinéma de genre en France et en Europe. Donc Crying Freeman 1995, après ça, on a une nouvelle génération qui décide, voilà, d'investir en fait le cinéma de genre. Donc déjà Mathieu Kassovitz qui est arrivé la même année, Crying Freeman avec La Haine, parce que La Haine, qu'on le veuille ou non, c'est du cinéma de genre, voilà, et ça restera culte pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc il essaye déjà dans les années 2000 d'adapter un roman populaire, ça deviendra Les Rivières Pourpres. Voilà, et Les Rivières Pourpres, c'est quand même, voilà, déjà une première proposition. On enchaîne avec Le Pacte des Loups, du même Christophe Gans. On a eu Need Gap, de Florent-Emilio Siri. On a eu Total Western, d'Éric Rochant. Donc, et on a eu Le Convoyeur aussi, Nicolas Boukrieff. Voilà, donc déjà, en vraie proposition de genre, on a eu tout ça. Dès 2004, on a Olivier Marchal, voilà, qui intervient avec 36 Quai des Orfèvres. On a aussi, on a tendance à l'oublier, Jean-François Richer aussi, qui intervient. Voilà, donc avec État des Lieux, qui intervient avec Ma Cité va craquer, et qui après, par derrière, va continuer. Il est l'un des rares, avec Olivier Marchal, à persévérer, à toujours avoir quand même un peu de fond, on va dire, avoir de la prod pour pouvoir produire, pour pouvoir réaliser ces films-là. Voilà, mais j'ai envie de vous dire, en France, là, ceux qui tournent aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, hein, ils sont deux. Ça se compte sur les doigts d'une seule main. Voilà, Marchal et Richer. Je suis désolé. Désolé pour les autres, mais ça rentre pas dans le même créneau, dans la même envie, en fait. Donc, ils sont deux. Et j'en oublie, hein, parce que là, je reste sur le cinéma d'action. J'en oublie, hein, dans le genre horrifique, hein, bien entendu. Hein. Donc, comme les Bustillo et Maury avec À l'intérieur, ou même Logier avec Martyr. Donc. Mais tout ça, c'est concentré au début des années 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben oui, parce qu'en France, on trouve toujours à dire « L'acteur, il joue pas comme aux États-Unis ou c'est pas pareil. » Ben oui, c'est pas pareil. Parce que forcément, toi, t'aimes le cinéma américain parce que t'habites pas aux États-Unis. Donc ça te semble, ça fonctionne. Quand t'habites, par exemple, si on prend Balles perdues, qui est tourné du coup dans la ville de Sète, ben ouais, moi je connais Sète, voilà. Donc ouais, ça te semble tangible. Donc du coup, t'as une comparaison. Donc forcément, ça fait bizarre. Mais toi, à la place de l'américain, lui, qui va regarder son film d'action qui est tourné dans sa ruelle, ça lui fera la même chose. Donc maintenant, faut arrêter un peu les conneries. On a des décors, on a des lieux, on peut faire du film d'action, on peut faire du film de genre en France. Voilà, faut poser. Vous me sentez un peu vénère, hein. Donc en plus, c'est très bien d'avoir mis un morceau de No One Is Innocent en dessous, parce que du coup, ça va avec mon flow assez énervé, parce que c'est pas... Je suis un peu en colère, parce que je vois comment il a reçu un petit peu balle perdue d'un certain côté, mais en même temps, c'est aussi de l'énergie pour soutenir ce cinéma-là, parce que si on le fait pas maintenant, mais vous plaignez pas, hein, parce qu'il y aura jamais rien en France. Voilà, il y aura jamais rien. Il y aura jamais rien. Si on soutient pas un film comme Balles perdues ou un effort comme celui-là, il y aura que dalle. Il y aura toujours les mêmes merdes. Il y aura toujours les mêmes comédies et les mêmes films d'époque, et les mêmes trucs historiques, quoi, les mêmes trucs à la con et les mêmes débats sur les Césars. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre. On est complètement à côté de la plaque sur ce qui se passe aujourd'hui en cinéma. Donc voilà, la vieille institution, va falloir qu'on la réforme et qu'on se réveille, parce que ouais, on est en capacité de faire du genre. Pourquoi ? Parce que bordel, quoi qu'il arrive, on est quand même la patrie de la Révolution, quand même. 1789, il y avait des burnes à cette époque-là. Donc on a ça en nous. On est capable de faire, de prendre les armes, c'est-à-dire les caméras, et de livrer du film, voilà, du film, du vrai genre, du cinéma de genre. On est capable. Donc je me suis un petit peu éparpillé là-dessus. Donc voilà, je voulais quand même profiter de ce podcast pour contextualiser ça. Donc c'est-à-dire que ces efforts-là, ils ont été faits il y a 20 ans. Et où sont ces réalisateurs? Les trois quarts, soit ils ont arrêté de tourner, soit ils sont partis tourner à l'étranger. Voilà. Regardez Alexandre Aja, par exemple. Voilà. C'est pas le seul. Voilà. Regardez Mathieu Kassovitz. Voilà. Bon, lui, s'est flingué avec Babylon AD. Bon. Voilà. Mais pareil, il s'est heurté à des problèmes de prod. Voilà. Il s'est heurté à des problèmes de vision. Donc, et Babylon AD, c'est le reflet de notre incapacité, notre incompréhension à comprendre le genre. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi historique. Donc j'espère que 20 ans après, voilà, parce que je pense que Guillaume Pierret, il est proche de la quarantaine, c'est à peu près ça. C'est un mec qui avait 20 piges quand ces films-là ils sont sortis. Et on voit du coup l'influence. Ouais, ouais, les gars, voilà, je m'adresse à Kassovitz, à Siri, à Rochon, à Gans, ouais. Vous avez permis ce qui se passe aujourd'hui, mais par contre, faut pas lâcher l'affaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire en recentrant un petit peu le débat sur le cinéma de genre français. Donc maintenant, on va parler de Balles perdues. Alors Balles perdues, ouais, mais en fait, comme on a un peu une vie, tout un chacun, parce que voilà, forcément, cette activité de podcast, je la fais pas pour gagner de l'argent et je la ferai jamais pour gagner de l'argent. Voilà, donc ça se fait en fonction des possibilités, du timing que j'ai. Donc et je trouve que déjà j'en livre assez régulièrement, malgré tous les à côté professionnels, familiaux qu'il peut y avoir. Donc effectivement, Balles perdues, je le chronique un petit peu après la guerre. Pas trop non plus, hein, parce que je vois que mes confrères de VHS et Canapé auront d'ailleurs ce soir le Réal en direct sur Discord. Et ça, c'est une très bonne chose aussi que VHS et Canapé puissent soutenir aussi cette offrande que nous fait Guillaume Pierret au cinéma d'action et au cinéma populaire français. Donc, du coup, ben voilà, je l'ai vu, je crois qu'il y a deux jours. Voilà, je l'ai regardé il y a deux jours, parce que voilà, bien entendu, la plateforme Netflix m'envoie un petit message en me disant « Ceci pourrait vous intéresser ». Ben oui, effectivement, ça peut m'intéresser. Donc j'y suis allé un peu avec des a priori. Oh la claque! Quand je l'ai regardé, ah ouais, la claque, directement. Déjà, tu sens déjà que le mec, il a une envie de te faire un film de vidéoclub. Il a envie de te faire un film, un actionneur comme on pouvait voir dans les années 90. Tu sais pourquoi? Parce que le film, il fait 1h33. Et par les temps qui courent, 1h33, mais putain, mais c'est génial. C'est-à-dire que ouais, on n'a pas besoin d'étirer un film jusqu'à 2h, voire plus de 2h. Surtout un film d'action. C'est le principal problème de Tyler Rake. Tyler Rake, ça raconte rien. Je suis désolé, hein, ça raconte deux mecs qui se mettent des baffes hein, pendant 2h. Donc j'ai envie de te dire qu'au bout d'1h, déjà, même si t'aimes l'action, t'en as déjà plein ton cul et tu sais même plus qui c'est qui a donné la baffe d'avant et celui qui va donner la baffe suivante. Hein. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc voilà, donc déjà, tu vois le truc, il fait à peu près 1h33. Et moi, là où j'ai compris que j'avais affaire à un mec qui était en pleine possession de ses moyens, parce que c'est un premier film, hein, qui savait exactement ce qu'il faisait, c'est que je suis déjà mis in medias res dans l'action. Donc c'est-à-dire que déjà, d'entrée de jeu, première séquence, j'ai déjà un mec qui est sous perfusion en fait d'une présentation d'un anti-héros en mode western. C'est-à-dire qu'on présente la personne par rapport par ses actes, voilà, c'est-à-dire défoncer quasiment une dizaine de murs, voilà, avec une Clio, sans que son nom soit prononcé. On le voit par ses actions, et ça, c'est comme on le faisait dans le western. Voilà, déjà, le mec, je dis, ok, le mec, déjà, il a compris. Il a compris comment on fait, voilà. Donc, il y a un vrai postulat d'anti-héros, et je pourrais... Et vraiment, il y a plein de choses à l'intérieur qui dépassent le postulat du simple bébouin. C'est-à-dire que déjà, Guillaume Pierret, il va gérer à merveille, on va dire, cet outil dramaturgique qui est ce qu'on appelle soit le pistolet, soit le fusil de Tchekhov. C'est-à-dire que chaque chose qui va nous présenter ou chaque chose à laquelle un des personnages va faire allusion va servir dans le récit. Putain, ça fait du bien. Voilà, ça faisait longtemps. Alors ça, c'est hors cadre film français. Hein, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc où je me dis... Putain, tiens, c'est pas totalement gratuit, ça va servir à quelque chose, il crée une attente, il pose des enjeux. Donc déjà, j'ai envie de te dire, Guillaume, pour un premier film, chapeau. Voilà, chapeau. Mais alors là, où tu m'as eu complètement, c'est quand ensuite, on voit la brigade d'intervention en action, quelques minutes plus tard, et que là, ça en a l'odeur, ça en a le goût, ça pue l'hommage au premier Mad Max de George Miller jusqu'à la gueule des voitures de police. Et là, j'ai eu des frissons qui m'ont parcouru le bras. Je me suis dit, putain, je suis en train de regarder un film français. Il y a un mec, c'est son premier film. Il te fait un hommage directement sur le bitume au premier Mad Max de George Miller. Alors là, chapeau bas. À partir de là, il pouvait y avoir de la merde à l'écran. Tu m'avais eu, t'avais fait un hommage, voilà, je m'adresse directement à toi, t'avais fait un hommage directement au premier Mad Max de George Miller. Moi, j'étais conquis, direct. C'était emballé, c'était pesé. Donc, balle perdue, si je devais le résumer, là, rien qu'en regardant ces 10 minutes, ça pue la sueur, ça pue la tôle froissée. Voilà, ça pue les 70s, mais dans le bon sens du terme. Voilà, donc la caméra, voilà, elle est posée sur le bitume. Hein, on n'a pas recours, on va dire, à un positionnement de caméra comme on peut l'avoir avec certains réalisateurs qui sont un petit peu, voilà, qui prennent des raccourcis, voilà, qui t'emballent ça comme du lambda. Déjà, d'entrée de jeu, il y a une vision. Voilà, déjà, quand tu regardes ce film-là, voilà, tu te poses la question, tu te dis, ouais, il y a vraiment un postulat de départ. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, y a, déjà, dès les premières séquences, on pose, voilà, j'ai envie de dire, il pose ses burnes directement. Donc là, déjà, parfait. Donc, référence à Mad Max 1, on a compris, là, ça me plaît. Quelle est l'histoire, en fait, de Balles perdues ? J'ai envie de vous dire, ça aurait pu être une idée qu'on aurait pu discuter entre potes. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous regardez le dernier Mad Max Fury Road, voilà, de George Miller, et si vous vous renseignez un peu, vous savez que toutes les bagnoles qui sont à l'écran ont été fabriquées à même le plateau. Donc, il y a des mecs qui ont fabriqué, customisé ces bagnoles. Donc déjà, ça peut être un échange entre deux potes qui regardent Mad Max et qui se disent... Putain, ça serait cool de voir l'histoire d'un mec qui customise des bagnoles comme ça, qui les renforce, voilà. Ça peut partir de là. Mais je pense pas quand même qu'il a eu cette idée. Pourquoi pas, hein, j'écouterai un petit peu le Discord qui sera fait ce soir pour en savoir un peu plus. Mais en tout cas, le postulat de départ est intéressant. Et pas forcément... Et original, en fait. Pas forcément vu. Il y a un côté aussi... Agence Tourisque, ouais désolé je suis un petit peu un vieux aussi, j'aime bien, moi j'aimais bien ce côté Agence Tourisque aussi où tu customises des caisses, donc voilà, vous avez un anti-héros, donc voilà, un voyou, hein, qui, sa spécialité à lui, c'est de renforcer de la bagnole, de la modifier pour pouvoir permettre à cette caisse d'être un vrai outil, un vrai engin de mort, donc ça répond déjà, ça fait plein de références hein, au final, ça répond déjà au Quentin Tarantino de Boulevard de la Mort, où la bagnole de Kurt Russell faisait office de couteau pour un tueur en série, voilà, et ça répond aussi, ça convoque aussi autre chose, ce côté je customise la caisse, c'est que ça renvoie, en fait, à ce que faisait Michael Mann au niveau de ses personnages principaux dans ses premiers films. Si on prend le solitaire, il va prendre l'axe du voyou, mais au niveau du mec qui est perceur de coffre, voilà. Et là, Guillaume Pierret, lui, il prend le mec qui renforce les caisses, voilà, pour les go fast ou pour les ou du coup pour les bracos réalisés avec des voitures béliers, etc. Donc moi ce que j'aime bien c'est qu'il regarde le genre, voilà, c'est film de braquage, film de gangster, il prend le genre, il se dit bon ok, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà traité, et là l'angle choisi il est pas mal, voilà, donc l'angle choisi il est pas mal, et il va du coup mélanger ça avec un côté un petit peu rédemption. Voilà, c'est ce que j'aime bien aussi. Donc il y a une progression, en fait, un cheminement psychologique du personnage. Donc ce personnage-là est pris la main dans le sac sur un braco qui tourne mal avec une caisse modifiée. Et du coup, il est enrôlé, voilà, par, du coup, par le chef d'une section anti-go-fast qui est incarné par Ramzi Bedia, de Eric et Ramzi. Donc du coup, qui est un peu à contre-emploi. Et il est engagé par le personnage de Ramzi. Et du coup, il va être amené à modifier les voitures, du coup, de qui ? Et bah, de ses ennemis, qui, à la base, qui étaient les flics, pour arrêter, bah, du coup, on va dire, pour arrêter ses collègues à lui, à la base, ses anciens collègues, voilà. Donc, il y a un postulat qui est intéressant, et très tôt, on voit la complicité, en fait, et l'amitié qui s'installe entre le personnage, du coup, incarné par Ramzi Bedia, et le personnage principal qui est incarné, parce que j'en ai pas encore parlé, par Alban Lenoir. Donc du coup on a ce postulat et très vite on va se retrouver du coup dans une histoire, dans un complot organisé par des flics corrompus à l'intérieur de la brigade, et notre personnage principal va se retrouver du coup seul contre tous pour prouver déjà d'une son innocence et de deux pour aller démanteler ce réseau de flics corrompus, et là on bascule à ce moment-là dans le revenge movie. Donc on commence sur le film de gangster, on est dans le polar, on est dans le film d'action, on est dans le road movie, on est dans le road movie pédestre, c'est-à-dire à pied. Donc voilà, c'est on a vraiment un melting pot de genre, mais ça se tient. Ça se tient. À aucun moment, on se dit, putain, ça part en couille. Non. Au contraire, c'est plutôt positif quand ça embraye sur autre chose. Putain, on se dit, waouh, voilà. Et c'est la réaction que j'ai eue, parce que pour une fois, ouais, balle perdue m'a mis en position de spectateur, ça fait du bien quoi. C'est-à-dire que quand on fait un podcast, moi à côté de ces activités-là, je bosse aussi dans le milieu audiovisuel, donc on a tendance du coup à suranalyser, avoir les défauts. Putain là, ça fait du bien, je suis un simple spectateur et qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Je suis en train de regarder un bourrin produit en France tourné à 7. J'ai habité pendant une dizaine d'années pas très loin de 7, donc je connais les lieux. Donc le mec a les burnes de faire des séquences de poursuite en bas du Théâtre de la Mer, aux abords du Théâtre de la Mer, et ça c'est génial. Donc du coup tu regardes un B bourrin français, voilà, avec un acteur déjà que t'aimais bien, hein, comme Alban Lenoir, qui est statamisé. Il est statamisé le mec. Et quand tu regardes les séquences, ça va convoquer, ouais, tu sens l'influence des deux oreilles de Gareth Evans, et ça va même convoquer John Wick, voilà. Ouais, et putain, l'implication, on va en parler maintenant, l'acteur principal, Alban Lenoir, mais sans déconner, la performance qui est livrée, elle est incroyable. Voilà, moi, il m'a scotché. Alors oui, hein, ok, il aura pas un Oscar, parce qu'il n'y a pas de profond, mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? C'est l'histoire d'un mec qui veut se venger, voilà, et qui trafique des caisses, et qui va te la mettre profond avec la caisse qu'il a modifiée. Voilà ce que ça raconte, hein, balle perdue. C'est tout, hein, c'est du revenge movie avec des caisses, voilà. Et putain, l'implication, sans déconner, le mec, il est statamisé, donc les combats rapprochés main nue, oh, ils envoient. Donc ça, c'est réglé par Manu Lenzi, voilà, Emmanuel Lenzi, qui est un réalisateur de seconde équipe et un spécialiste des cascades, qui officie déjà depuis quelques années en France. Bon, là, le travail, oh là là, chapeau. Donc là, il y a, alors je pense, hein, de ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé certains passages, tout est fait par Alban Lenoir, donc c'est bien préparé. Je pense pas qu'il y ait de doublure par moment, je pense pas, à part sur les scènes de poursuite en bagnole, peut-être, pour des questions de risque, mais en tout cas, dans les combats rapprochés, c'est lui qui le fait. Oh là là là, ce qu'il leur met. Et je reprends cette séquence-là, dans le commissariat. Ouais, il y a une séquence de fight dans le commissariat. Elle est super bien amenée. C'est un hommage frontal à Terminator. Hein. Voilà, désolé, Guillaume Pierre, je l'ai vu arriver. Voilà. C'est un hommage à Terminator. Voilà. On t'enferme le mécano dans une pièce. Il va se libérer, il va défoncer tout le commissariat. Et t'as même un dixième rôle qui a rien à foutre là. Et il est en voix off. C'est un mec qui se fait arrêter. Il est là. Mais vas-y, pète-leur bien leur gueule. Défonceur, vas-y. Mais t'es là, toi, t'es là. T'es là, tu te dis, mais t'as envie de gueuler comme le mec, là. Mais c'est clair. Alors, je suis pas en train de vous faire un truc, un propos anti-flic. Non, rien à voir. Je vous dis, c'est du cinéma de genre. Voilà, c'est les flics pourris. Voilà, donc les flics pourris, ils ramassent. Ils leur pètent la tronche. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que Guillaume Pierret, quand il avance un truc dans ce film, ça se passe. Voilà. C'est-à-dire, le mec te dit, il trafique des moteurs, il trafique des bagnoles pour défoncer d'autres bagnoles, tu vas le voir. Voilà. Le mec, tu sens que Alban Lenoir, il est taillé en mode serpe, le mec, il a les mâchoires serrées, voilà, il est aiguisé comme une lame de rasoir, t'as l'impression qu'il va fighter, quand il fight. Voilà, il n'y a pas d'arnaque. C'est-à-dire que c'est là où la série B, elle est respectée. C'est-à-dire que quand ça tape, et bien comme il faut. Donc déjà, la scène du commissariat, tu sors de là, t'as pris ta dose de cinéma d'action, voilà, ça envoie sévère, mais le pire là-dedans, c'est que ça continue, hein. C'est que ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que t'as quand même un postulat aussi où une relation d'amitié, un peu de bromance avec, on va dire, un pote, du coup, au personnage principal. J'en dis pas plus parce que j'ai pas envie non plus de spoiler certains éléments, mais bon, en gros, voilà, il y a une espèce de relation d'amitié qui est installée entre Alban Lenoir et un de ses potes. Et à un moment donné, il se retrouve dans une grange et t'as un flic ripou qui arrive, mais putain, le moment de la grange, ça convoque le cinéma de Sam Peckinpah et on se croirait dans un western. Ça pue la poussière et le sang. Voilà, c'est les termes. Donc, c'est-à-dire que quand Guillaume Pierret s'attaque à quelque chose, il le fait bien. Il le fait avec respect et il arrive à exister en tant que tel. Voilà. Et dans la scène finale, voilà, qui vaut tout le film, hein, dans cette scène finale, qui on peut voir, hein, la voiture, la Renault 21 modifiée, là. Cette espèce d'avancée là, on dirait des dents, voilà, on dirait voilà, il y avait les dents de la mer, il y a les dents de la route, quoi. Quand tu vois ce truc là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film de fou? Ben oui, c'est à dire qu'il va au bout, c'est à dire que le mec il se fabrique des défenses tel un animal sauvage sur sa caisse, et il va défoncer par l'arrière la caisse des flics. Et j'ai envie de vous dire, en fait, le personnage d'Alban Lenoir là, quand il défonce la voiture de police avec l'avancée de sa caisse. Et j'ai envie de dire, c'est pas un peu ce que c'est pas un peu ce qu'a fait aussi Guillaume Pierret. Il vient pas défoncer un petit peu aussi par derrière, on l'a pas vu venir, le cinéma français. Moi j'ai envie de dire que c'est un peu le cas. Donc ouais, balle perdue. Ouais, ça, grosse surprise. Voilà. Seul défaut, c'est un premier film, je sais pas si vous, voilà, pour ceux qui m'écoutent, remettez les choses en perspective, c'est un premier film. Moi j'ai vu des gens qui m'ont cité, ouais, McTiernan, machin, McTiernan, il avait fait Nomad, voilà, en premier film, et putain, et Nomad, voilà, Nomad je l'ai, hein. On se fait chier devant Nomad, voilà, c'est long, c'est chiant, etc. Donc quand McTiernan il fait son premier film, il fait pas Predator c'est le film suivant, c'est le film d'après. Voilà, donc c'est pas celui-là. Donc hélas pareil, Michael Mann aussi, les gens ont tendance à l'oublier. Il a fait La Forteresse Noire aussi, hein, bien avant de faire Hit. Donc laissez à Guillaume Pierret le temps de faire ses preuves, mais pour un premier film en l'état, ouais, ça défonce. Donc seul petit, quel petit défaut on pourrait trouver à une bande qui dure une heure et demie, qui a déjà résolu bien des problèmes qui existaient déjà dans le cinéma français. Je pense que ça aurait mérité, peut-être en termes de photographie, d'être un peu plus appuyé. On sent parfois un côté un petit peu... alors, attention, je dis bien en termes de colorimétrie, etc., des talos, un petit peu de téléfilm. Mais bon, c'est pas grave, ça passe, quoi. Ça passe. Il y a aussi le côté HD qui vient là-dedans, donc... voilà, petit bémol, quoi. Mais en l'état, ouais, il y a une fin ouverte, j'ai envie de voir la suite, bordel. Et autre... alors, c'est plus en termes de conseils. Moi, je pense que sur un film comme ça, là, Tôle froissée bitume, ouais, il faut du son métal. Faut du son rock. Faut, voilà, faut y aller à fond, là. Là, je pense qu'il y a encore une pression à monter. Et j'ai envie de vous dire que s'il nous fait une explosion façon Gareth Evans, c'est-à-dire de passer de The Raid à The Raid 2, mais grave, carrément. Si ça se passe en France, moi, je suis preneur. En tout cas, pour une première proposition d'action, voilà, dernièrement en France, chapeau bas, ça, le contrat est largement rempli. En tout cas, moi, voilà, moi, je suis fier de dire que ce film-là, il a été tourné en France, et ça, c'est quand même pas rien. Donc voilà, donc balle perdue, je ne saurais que trop vous le conseiller. Voilà, si vous aimez les séries B sans concession jusqu'au boutiste bourrine, allez-y. Par contre, si vous cherchez un peu de réflexion sur la vie et la société en général, non, vous n'en aurez pas un. Hein. C'est de la série B, ça roule, il y a du shotgun, ça envoie. Donc j'ai envie de vous dire, ouais, ça s'appelle balle perdue, mais là, Guillaume Pierret, il a tiré juste et dans le mille. Donc c'était le premier épisode des Welcome to the Streaming. Ici, à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute.
Donnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de
7ème dimension en mode podcast.